Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour. Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. C'est Pessoa qui disait « Plus un homme monte haut, plus nombreuses sont les privations qu'il doit s'imposer. Au sommet, il n'y a de place que pour l'homme seul. Plus il est parfait, plus il est entier. Et plus il est entier, moins il est quelqu'un d'autre que lui-même. » Et puis, plus loin, il ajoutait, « Nous n'adorons la perfection que parce que nous ne pouvons la posséder. Nous la repousserions si nous la possédions. Être parfait, c'est être inhumain, parce que l'humain est imparfait. » Donc nous allons rester dans ce côté humain, c'est-à-dire ce côté imparfait, pour vous parler des poètes de cette semaine. Tout d'abord, je voudrais faire une annonce sur un livre qui est sorti au moment du printemps des poètes, et qui est l'œuvre de la directrice du printemps des poètes, j'ai nommé Sophie Nolot. Alors, Sophie Nolot, elle fait paraître aux éditions Actes Sud, comme chaque année au moment du printemps des poètes, sur le thème de l'édition 2024, du printemps des poèmes, qui était le thème de la grâce. Elle fait paraître un petit livre avec comme titre « Mais de grâce écoutez », donc aux éditions Actes Sud, disais-je, Sophie Nolot. Alors Sophie Nolot, nous l'aimons beaucoup, d'abord parce qu'elle est née à Toulouse, en 1977. Elle a produit pour France Culture des documentaires, des émissions régulières. Et elle est maintenant, vous disais-je, elle a succédé à cette fonction à notre ami Jean-Pierre Siméon. Elle est directrice donc artistique du Printemps des Poètes. Alors, ce titre « Mais de grâce, écoutez », dont je vais vous parler, c'est le sixième de cette série de récits poétiques qu'elle a fait paraître régulièrement, donc, qui sont des récits bien singuliers, chez Actes Sud. Alors, on les rappelle, c'est « La poésie à l'épreuve de soi »,« Espère en ton courage »,« Ce qu'il faut de désir »,« S'il en est encore temps » et « Des frontières et des jours ». Alors, pour la plupart de ces publications, nous en avons rendu compte ici, à ce micro de Radio Occitanie. Mais de grâce écoutez, aux éditions Actes Sud. Alors, c'est un excellent livre. C'est un excellent essai qui est à la fois d'abord d'une écriture qui est une écriture époustouflante. Il y a là une virtuosité dans l'écriture qui est quand même exceptionnelle. Il faut bien le dire. Et rien que cette qualité-là de ce livre, c'est-à-dire une qualité d'écriture qui est un véritable régal, et qui est un régal même pour, je dirais, le style. Même s'il n'y avait rien, le style est déjà un enchantement. C'est rare, hein, de pouvoir dire ça d'un livre. Mais là, on y est en plein. Et puis, On apprend un peu d'elle, et on est content de savoir que elle est née chez nous, là, à Toulouse. Alors, elle est née en 1977. En écoutant, elle parle d'ailleurs de cette naissance en 1977. C'était par un jour d'orage. Un jour de violent orage, de très violent orage, comme il y en a de temps en temps donc dans notre région toulousaine, hein, en particulier vers l'été, les orages du mois d'août, mais aussi ça peut arriver au mois de mai, qu'ils font généralement des inondations où il y a. Et là, c'était le cas. Alors, on a beaucoup de plaisir à lire ça. Alors, en plus, lorsqu'on connaît la ville, lorsqu'on connaît Toulouse, où elle est née à La Grave, qui était avant vraiment. Moi, ma mère était infirmière à La Grave pendant longtemps, et c'était là où les naissances se faisaient. Et puis, elle parle donc de ce monde de 1977, qui, moi, me paraît très, très proche, mais qui, pour elle, déjà, semble être un autre monde. Et, bon, j'ai eu plaisir à lire ça, mais en même temps, je me suis dit, malheur, 1977, moi, ma fille est née en 1971, dans une clinique de la rue de la Faourette qui a disparu maintenant, effectivement, comme elle. C'est la sage-femme qui avait accouché ma femme de cette époque-là. Et donc, il y a cette connaissance de la ville, de notre ville, bien sûr, une connaissance intime, et qui est allé revoir aussi les événements qui se sont produits le jour de sa naissance. Par exemple, la cité universitaire Daniel Fauché a été évacuée pour l'inondation lors de sa naissance à elle. Et même le préfet de la Haute-Garonne a fait appel à l'armée en 1977. Voilà, il y avait des pluies diluviennes qui avaient provoqué des inondations absolument catastrophiques. Et elle est née là, chez nous, dans cette maternité de La Grave. Alors La Grave, pour ceux qui ne connaissent pas Toulouse, il a un dôme en bronze, qui a souvent une couleur verte, et qui est l'image mythique de la Garonne et de Toulouse. Voilà, et c'est là qu'elle est. Alors, il y a, dans ce livre, Mais de grâce, écoutez, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses concentrées. Je crois que le mieux, c'est que je vous lise des extraits. Dès que je viens de finir de le lire, mais dès que je vais avoir un peu de temps, je vais essayer, bien entendu, de faire des notes de lecture que je mettrai sur le site lespoètes.site. J'ai toujours aimé les annonciations, dit-elle, et toujours trouvé que le pauvre Gabriel, alors elle parle de l'archange Gabriel, avait un second rôle ingrat, effacé en messager de Dieu, le genou à terre, ses ailes d'archange courbées, éclipsé par les trompettes, son invraisemblable secret et les fleurs de lys. Était-ce vraiment une bonne nouvelle que cet enfant non désiré à naître? Comme je n'écrivais rien sur ma chauve-souris de l'aube, je précise que, dans le paragraphe avant, elle explique que, en se levant le matin, elle a trouvé, en bas de son frigidaire, une chauve-souris, donc, qui était à terre. Comme je n'écrivais rien sur ma chauve-souris de l'aube, trois autres se sont brusquement engouffrés dans notre chambre à la tombée du jour, tournoyant de panique ou de perspicacité. Volage et inopiné. Cherchait-elle une issue? Cherchait-elle seulement l'encadrement de fenêtres qui les a vus entrer ou l'écho de leur proie invisible? Plus sombre que la nuit, elle ne s'arrime à rien. Que voit-elle au juste de nos corps sous les draps blancs? Elle, dont les yeux percent les ténèbres et la superstition humaine. Présage de changement, de grand deuil ou de longévité, selon que l'on vit d'un côté ou de l'autre de l'univers. Pharmacopée de sorcière, sœur du hibou funèbre et de l'orfraie avide que l'on ne cloue plus en signe d'exorcisme aux portes des campagnes. Mais l'on élève toujours bêtement les bras en croix au-dessus des cheveux pour s'en protéger parce qu'on nous a mis en garde fillette. triste oiseau de malheur, qui n'en est pas un, seul mammifère capable de voler. La main déployée de ses ailes, si longtemps associée aux bestiaires maléfiques, continue d'effrayer. « The bat is done », disait Emily Dickinson, « entre le brun, le gris et le harcèlement, sombre comme la robe du loup ou des chevaux sauvages. » And nod, a song pervaded his lips. Pas une chanson ne pervertit ses lèvres. Or none perceivable, ou nullement perceptible. Avant de conclure, beneficent, believe me, his eccentricities. Or, nous pouvons la croire, il parle de Emily Dickinson, bien sûr, celle qui avait la nuit pour jour préféré et qui cachait encore ses poèmes à 50 ans passés, ses excentricités sont salutaires. La chauve-souris ne s'envole pas, elle se laisse choir, drapée d'obscurité, de sommeil, et chez elle, en vol prémonitoire, la tête à la renverse. Elle ne crie pas miséricorde. Voilà. Alors vous voyez, d'abord elle parle de la chauve-souris, et rien que sur la chauve-souris, toute la digression que cela comporte, elle va chercher Emily Dickinson, dont c'est quelqu'un qui a une culture extraordinaire et qui peut rattacher ça. Ça me fait penser à ce que disait George Mayols, l'ancien secrétaire perpétuel de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, ici, qui a été président de l'université que l'on appelait l'université du Mirail à l'époque, l'université Jean Jaurès aujourd'hui, et qui a écrit un livre remarquable où il dit, et ainsi de suite, c'est-à-dire qu'on est capable de partir d'un mot, d'une idée, d'une phrase, pour aller ainsi de suite à autre chose, à autre chose, à autre chose, à autre chose, et ceci de façon quasiment indéfinie et illimitée. Eh bien, c'est un peu ça, ce livre de Sophie Nolot, mais de grâce écoutée. Le thème central, c'est la grâce, bien sûr. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est ces extravagantes digressions qui vous prennent, qui vous prennent à la gorge. C'est tellement d'abord, il y a une beauté, vous avez vu, une beauté de l'écriture extraordinaire. Je ne sais pas si elle travaille beaucoup, l'écriture, mais enfin, le résultat est absolument remarquable. Et on va ainsi de suite de la chauve-souris à Emily Dickinson, de là à la grâce de Marie et Jean-Louis Trintignant plus tard, à la grâce de Christian Bobin, des magnifiques, magnifiques pages sur Christian Bobin, que cela m'a fait de bien de pouvoir lire cela dans un chapitre qui s'appelle l'éternité. Oh, que j'étais heureux de pouvoir lire cela sur ce poète qui était le poète du Creusot, poète discret, extraordinaire, et qui repose chez nous en Occitanie, dans le Gers, à Marciac, hein, près d'ailleurs du stade. Si vous allez au festival de jazz de Marciac, n'oubliez pas d'aller saluer un des plus grands poètes de notre 20e et 21e siècle, qui est Christian Bobin. Et puis j'étais tellement heureux de lire ces pages, vraiment, où elle fait l'apologie avec ce style extraordinaire qui est le sien, ce magnifique style merveilleux, donc de pouvoir lire cette apologie de Christian Bobin. Quand Christian Bobin a disparu, j'ai fait une émission sur lui. Il venait de faire apparaître, je pense, le Muguet Rouge. Et j'ai eu des réactions absolument imprévisibles. jamais je ne m'attendais à ça, de recevoir un peu des gens qui m'ont raillé, et qui raillaient Christian Bobin en disant « Mais pour qui vous vous prenez pour avoir dit que Christian Bobin était un des plus grands poètes du XXe siècle ?» Eh bien oui, je maintiens, et combien je suis heureux de voir que Sophie Nolot, eh bien, elle pense également la même chose. Voilà, je me sens moins seul. Alors c'est merveilleux. Je vais lire un extrait de ce passage où elle parle de Christian Bobin. Le soir où Christian Bobin est mort, un renard sur la route s'est jeté dans nos phares, non loin de la voie ferrée. J'ai pleuré ce renard sans savoir non plus si ma lettre, écrite à la Saint-Christian tout exprès, 10 nuits avant son dernier souffle, était restée boulevard Schneider, côté père, où avait été emporté in extremis à l'hôpital à ses côtés, noyé dans la pile de courriers de ses admirateurs auxquels il ne répondait plus. Je n'ai pas voulu poser la question. J'ai préféré acheter un renard d'herbe verte, peluche carnivore en gazon synthétique, pour qu'il veille à l'entrée de la maison, côté cuisine. Je l'ai regardé se couvrir de givre, puis de neige, entouré de ces deux renardeaux lovés, ou encore valdingués nuitamment sous l'emportement du mistral. Ce n'est qu'à l'été, tandis que les abeilles venaient butiner au-dessus de sa tête les fleurs de bignonne grimpantes, toutes trompettes dehors, que je suis retombé sur cette phrase de Noir Clair. C'est un titre donc d'un recueil de Christian Bobin, où le narrateur prétend partager le même groupe sanguin que les abeilles, la lune et les renards. Résus riant à jamais. Généreux comme si peu de mortels ici-bas. Combien de centaines, combien de milliers sommes-nous à chérir ces enveloppes épaisses qui arrivaient un matin, revêtues de son écriture ronde et enjouée, plus ou moins penchée selon la saison, la peinte noire ou bleue de ses feutres pilots, les gros V, signe peine, où l'on peut voir le niveau d'encre baissé, liquide et pur, et que l'on achète par lot de 3, plus un offert au supermarché ou à l'unité chez la marchande de journaux, ne vibrera plus. Ces enveloppes de couleur paille ne galoperont plus dans la toile de jute des bureaux de poste. Voilà, alors elle dit « Recevoir une lettre de Christian Bobin était une raison suffisante à mes yeux de publier un livre ». Voilà, et elle a bien raison. Alors vous voyez le style. Et puis, et ainsi de suite, hein, de la mort de Christian Bobin, on passe au stylo, au feutre, stylo-feutre pilote, hein, et puis aux enveloppes de couleur paille, etc. Voilà, ça n'en finit pas. On va de ainsi de suite, d'un objet à l'autre, avec cette magnificence de l'écriture. C'est l'écriture qui permet cette espèce de chemin qui pourrait être chaotique, mais qui ne l'est pas, parce que l'écriture sert bien le chemin, elle nous accompagne bien. Un autre, elle parle aussi du vitrail, c'est merveilleux ce qu'elle dit sur le vitrail. Le vitrail, et j'ai pensé d'ailleurs en lisant ça, j'ai pensé à Soulages, les vitraux de Soulages. Elle parle aussi de Pessoa. L'affût est tout terrain qui nous élève l'âme. Pas la peine de réussir un triple lutz piqué pour y accéder, d'autant que le patineur viennois qui a donné son nom à ce saut saisissant en contre-rotation est mort à l'âge de 20 ans, je ne sais pas comment. Vitons plus vite et vaste sur le tranchant affûté de la double lame d'un patin à glace. Il y a peu, un petit garçon du Gard, assis en tailleur, dans une salle de classe, m'a presque fait regretter la grâce lorsqu'il m'a suggéré ce verbe intransitif, tout aussi universel et ascendant, pour thème du printemps des poètes, de point, grandir. Il avait vu juste. Devenir plus grand. S'élever. Corps et âme. Telle était la visée que j'avais en tête. Sa trouvaille m'a étourdi, au point que je n'ai pas demandé son prénom ni observé les traits de son visage. J'aurais aimé lui dire, avant que la cloche ne sonne, et qu'ils ne sortent tous en trombe, deux par deux, ce petit poème de Ricardo Reis. Pour être grand, demeure entier, rien de toi n'exagère ou n'élimine. Sois tout en chaque chose. Ce que tu es, mets-le dans le moindre de tes actes. Ainsi, sur chaque lac, la lune tout entière brille, elle qui vit de haut. J'aurais aimé lui expliquer qui était Fernando Pessoa. Avoir le temps de lui confier aussi que les minuscules escargots blancs, ces limaçons qui fuient au jardin, la chaleur du sol en s'agglutinant par dizaines au sommet de ce qu'ils trouvent, aromates, piquées ou baies vitrées, m'avaient montré la direction. De même, des grimpereaux des bois qui escaladent l'écorce des troncs d'arbres en bondissant, tous ongles dehors et droits comme un pivert. Fin mars 1877, durant la semaine sainte, une fillette de 12 ans voit des tailleurs de pierre à même les dalles d'une église en chantier. Dans la poussière de plâtre et le rayon de lumière des vitraux de la collégiale de Bar-le-Duc, petite ville de la Meuse, où son père a été muté par l'administration fiscale, Camille Claudel découvre la sculpture. Telle est la fonction de l'art du vitrail, nous prendre pour cible et nous percer un jour. La découverte, tout aussi fortuite, du jaune d'argent est légendaire chez les peintres sur verre. Un ancien soldat allemand, mercenaire et illettré, né au commencement du XVe siècle, se convertit de passage à Bologne, sur le tombeau de Saint-Dominique. Devenu frère convert, Jacques Deulme s'applique à fixer ses vertiges sur vitrail religieux. Un jour, que son supérieur l'envoie faire la quête, il quitte précipitamment son four, perdant d'une manche un bouton d'argent, lequel entre en fusion et colore de jaune vif l'espace de sa chute. À son retour, après refroidissement, l'ocre a viré à l'or. D'autres parlent du bouton de culotte d'un garçon verrier, mais je préfère de loin ce succès d'absence du Quattrocento à l'étourderie du jeune apprenti. Toujours est-il que le moine en question fut béatifié et célébré en saint patron des maîtres vitriers à chaque deuxième dimanche d'octobre. Alors, vous avez vu, là, il y a tout. On passe d'un thème à l'autre. Elle passe du thème de la grâce, le thème donc du printemps des poètes 2024, en disant, mais oui, j'ai choisi la grâce, mais ce petit garçon avait raison de me dire j'ai grandi. De ça, elle passe à Ricardo Reis, un hétéronyme de Fernando Pessoa. Alors, elle fait cette citation, évidemment, c'est une citation que tout le monde, tous les armateurs de Fernando Pessoa connaissent bien, hein, pour être grand demeure entier. Voilà. Et il a raison, Pessoa, quand il dit ça. Puis elle parle de Pessoa. Et Pessoa l'amène à Camille Claudel, ce sculpteur vraiment qui a été l'élève de Rodin, mais que Rodin a quand même étouffé, et puis que son frère, il faut bien dire, n'a pas beaucoup aidé. Et puis, regardez, un style extraordinaire. Elle se permet même, en parlant de Camille Claudel, de mettre 3 vers. Telle est la fonction de l'art du vitrail. Premier vers, nous prendre pour cible. Deuxième vers, troisième vers, et nous percer un jour. Et nous percer un jour. Le vitrail qui nous perce un jour. Une image magnifique. Une écriture magnifique. Et puis voilà. Et puis je voulais dire le vitrail parce que mon ami Claude Bretin, il fait du vitrail. Voilà. Et alors elle en parle bien. Il fait du vitrail. Et là, on apprend que c'est un moine qui a trouvé cette façon de colorer dans le vitrail à l'or. Alors, et il a bien fait de trouver ça, puisqu'il a été béatifié, vous vous rendez compte, béatifié. Voilà. Donc un livre magnifique. Hein. Il parle de l'alchimie ensuite. Voilà. Qui illustre bien donc ce que nous disaient les gens de talent. Ils peuvent aller donc et ainsi de suite rebondir d'un mot à l'autre, d'une pensée à une autre, dans une espèce de parcours qui nous amène et qui nous tient un peu en haleine. Et en haleine, je dirais, d'une façon très riche, parce que pour écrire ça, il faut avoir une grande culture, faire appel donc à ces réminiscences extraordinaires de culture et à ces enchaînements de culture. J'étais très heureux, par exemple, d'y retrouver aussi Tristan Corbière, que j'adore, dont on ne parle plus, qui est mort à 29 ans, qui ne publia qu'un recueil, Les Amours jaunes. Il faut lire absolument Les Amours jaunes de Tristan Corbière. Je ne sais pas si les jeunes le lisent encore, mais je sais que dans les années 60, on lisait beaucoup, hein, Les Amours jaunes. Voilà, elle parle de ça, et puis il y a aussi les classiques, elle parle de Titus et Bérénice, par exemple. Voilà. C'est un émerveillement, voilà, un émerveillement, c'est vraiment, comment dirais-je, une espèce de friandise, mais quand même une copieuse friandise, mais de grâce, écoutez, de Sophie Nolo, c'est publié Actes Sud, et cela ne vous coûtera que 13 euros, donc à lire vraiment, vous verrez, c'est vraiment un enchantement. Alors pour revenir à Pessoa, il disait, on peut trouver le courage physique sans la vanité, le courage moral sans la vanité, mais jamais l'audace sans la vanité. Et par audace, j'entends la confiance que l'on place dans ses propres initiatives. L'audace, en revanche, peut être dépourvue de tout courage, moral ou physique, car ses traits de caractère sont d'un ordre tout différent et lui sont incommensurables. Voilà. Petite parenthèse sur l'audace que je tenais à dire. Et puis, je ne résiste pas... Alors oui, pardon. Je vais parler d'Yves Leclerc. Yves Leclerc fait paraître aux éditions Pierre Ménard. Alors, les éditions Pierre Ménard font partie de ces éditions dont il faut dire beaucoup de bien. Et sans ces éditeurs, sans ces éditions, comme Pierre Ménard, comme Tarabuste, comme La Table Ronde, sans ces éditions, la poésie serait en danger. Donc il faut Poésie, par exemple, puisque nous, à Toulouse, les éditions IRES, qui sont des éditions toulousaines, publient d'excellents recueil de poésie dans la collection Poépsie. Voilà. Alors regardez sur notre site lespoètes.site, allez voir à la rubrique parution et vous verrez, donc on essaie de relayer le travail de ces éditeurs qui ont du courage, mais peut-être, je ne sais pas, du courage et de l'audace. L'audace de pouvoir publier souvent des poètes qui débutent et dont on ne sait jamais ce que va devenir un livre de poésie. Alors là, les éditions Pierre Ménard publient Yves Leclerc. Le titre de l'ouvrage, un ouvrage très agréable, hein, dans le format, dans la présentation, bon, c'est vraiment un régal. S'appelle Le village de l'idiot. Le village de l'idiot de Yves Leclerc aux éditions Pierre Ménard. Yves Leclerc, c'est l'auteur de journaux poétiques. Alors, journaux poétiques, je pense par exemple à Joël Vernet. Et à la rentrée, je reparlerai de Joël Vernet pour son journal poétique, le contemplateur, le contemplateur, excusez-moi. Je ferai une émission sur lui parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et je retrouve chez Yves Leclerc un peu cette même veine, hein, d'auteur de journaux poétiques, de récits et d'essais. Alors, il avait publié au Mercure de France, à la Table Ronde, hein, chez Gallimard, bien sûr, chez Arfuyen, Le Temps qu'il fait, bon, et d'autres. Et alors, Yves Leclerc, il nous intéresse beaucoup en aussi, en Occitanie, parce que il a été le traducteur des troubadours occitans, en particulier de Geoffrey Rudel. Geoffrey Rudel, qui est cher à notre ami Gérard Zucchetto, qui est mainteneur de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, hein, Gérard Zucchetto, et qui est l'auteur d'une recension extraordinaire, à mon avis, unique au monde, des troubadours. Et il faudra de nouveau en parler quand même, de ce travail extraordinaire qu'a fait Gérard Zucchetto sur les troubadours. Mais pour en revenir à Yves Leclerc, lui, il a traduit donc Geoffrey Rudel, il a traduit Peyre Cardinal, troubadour extravagant, et puis Cercamon dont j'ai parlé, d'ailleurs, de ce livre, traduit par Yves Leclerc, j'en ai parlé il y a quelques semaines, ici même, à ce micro, dans la collection Fédérope, littérature occitante, toujours chez Pierre Ménard. Hein. Et il a notamment publié Miniature, ça c'est à l'Étoile des Limites, c'était l'année dernière, et Le Parchemin enluminé, qui devrait paraître chez Gallimard, Le Parchemin enluminé que nous attendons d'Yves Leclerc. Alors, le village de l'idiot, qu'est-ce que ce village de l'idiot? Eh bien, Yves Leclerc, alors, il fait partie de ces auteurs qui sont nourris de philosophie orientale. J'ai beaucoup d'admiration pour eux. Moi, je suis... Bon, c'est pas que je sois rétif à rentrer là-dedans. Mais je suis un latin. Bon, dans tout ce qu'il y a de plus latin, c'est-à-dire... latin grec et la romanité avec tout cette espèce d'engouement pour la littérature romane, la littérature espagnole, hein, bon, que je lis, dans lequel je me sens familier. Donc, et tout ce qui est dérivé en définitive de la littérature antique, latine et grecque. Mais lui, Yves Leclerc, bien que vous l'avez vu, hein, il est aussi un des érudits des troubadours. Hein. Il est nourri en plus de ses lectures taoïstes et bouddhistes. Et dans Le Village de l'idiot, il dit que c'est un manuel d'aération. Un manuel d'aération en forêt qui cherche à retrouver une seconde innocence, un nouvel éveil à la vie. Ancré dans la réalité la plus élémentaire, le récit qu'il nous livre dans ce livre, Yves Leclerc, est émaillé de haïkus. Ça plairait, ça, à l'éditrice de Poepsie, qui cherche toujours des poèmes brefs. Comme dans les journaux de voyage des anciens poètes pèlerins japonais. L'idiot de ce voyage exprime par petites touches un savoir-vivre, une saveur de vivre, un mur de briques mandarines, trois criquets dans un âtre, une voix de femme, le spectacle de la nuit noire, la flamme d'une bougie, des sabots sur un seuil, une chaise en paille vide, autant d'occasions de disparaître dans la beauté simple. Donc vous avez compris, on est là, devant un ouvrage de célébration. Et cette célébration se fait un peu avec ce regard issu des lectures taoïstes et bouddhistes de Yves Leclerc. Yves Leclerc, le village de l'idiot, récit. Alors, il y a un frontispice aussi, qui est un frontispice, pardon, j'ai oublié le nom, de Keiji Oribe. C'est une calligraphie, donc. Alors, je vais vous lire. Agrément du voyageur, on a laissé la veilleuse, cet extrait de l'œuvre de Bachot. Au petit dieu de la bougeotte. Tu pars loin du bruit. Tu quittes l'enfer des villes. Tu fais tes adieux au fleuve. Tu as pris l'habitude d'y flâner et d'y méditer chaque jour, à la façon des poètes de la Chine ancienne, idiot perdu dans les nuages, village lointain. Tu accompagnes les oiseaux, tu suis les nuages. D'où vient le vent? Où va-t-il? Lui ne se pose pas de questions. Tu pars vers un nouveau lieu de contemplation. Le village que tu rejoins n'est pas le village mondial. C'est un village ordinaire, comme il en existe encore, perdu, loin des mégapoles et des pouvoirs. Tu as loué un petit ermitage pour 31 jours, le temps de retrouver la vie interdite. Inutile d'aller bien loin. Un coin perdu tout au fond d'une forêt suffira. Dans le bouddhisme tibétain, celui de Maître Milarepa, montagnes ou forêts sont identiques en ce qu'elles offrent, l'une comme l'autre, de grands espaces vides qui attirent les chercheurs d'absolu. Le bout du monde est partout où tu passes. Chuang Tzu, 4e siècle avant Jésus-Christ, rapporte ces paroles de son maître Lao Tzu. Le Tao est si grand qu'il ne comporte pas de fin et si petit que rien ne lui échappe. C'est pourquoi il est omniprésent dans tous les êtres. Il est si vaste qu'il n'est rien qu'il ne contienne. Il est si profond que personne ne peut le sonder. Tu fais ta valise. En commençant par les livres, comme toujours. Après, viendra le reste. Ce qui ne pèse pas, continue à le porter. Dans la bibliothèque, tu choisis quelques-uns de tes auteurs fétiches de la Chine et du Japon anciens. Les poètes bouddhistes Shan, Wang, Wei, Po Shuyi, An Shan, l'œuvre complète de Chuang Tzu, les entretiens de Confucius et les journaux de voyage de Matsuo Bashō. Dans ta petite valise, tu ajoutais un grand cahier à couverture de toile orange, un carnet de poche, plus pratique pour la route, un stylo à billes, des crayons de couleur, des vêtements de rechange, un pyjama, du savon et de l'eau de Cologne. N'oublie pas non plus le chapeau de paille, ni un bâton pour la marche. 2. Le chant du départ. Une sorte de chagrin te prend en route, en traversant les villages dans la campagne abandonnée. L'impression d'un immense désastre s'ajoute à la fièvre de quitter ton ermitage habituel, toujours esclave de l'attachement. Sur le fond de vase, pourtant, ta barque n'échoue pas. Dès que résonne le bâton de marche sur la route, l'allant et le ravissement reviennent intacts, comme si notre terre venait d'être inventée. Tu vas, et le chemin souvent t'arrête. Tu trottes comme l'âne vers son paradis, têtu et buissonnier. Tu ne sais pourquoi l'émeraude d'un pré sous le ciel bleu ou, en traversant tel petit village, une odeur de pain cuit, un homme en pauvre veste à la sortie d'un bistrot te happe et te réjouisse profondément. Il te semble être dans des dispositions extraordinaires. Tu ne te prends pour personne, tu t'effaces, tu disparais de la circulation, de sorte que tout discours te paraît vain, sauf peut-être cette langue chantante que seuls les sourds entendent. On part vraiment quand on ne s'en aperçoit plus, on est loin alors de la fébrilité imbécile du tourisme de masse. En chemin, tu t'étonnes de revivre, sans le savoir, sans le vouloir. Peut-être es-tu passé de l'autre côté des idées, dans l'énigme lumineuse de ce monde, même et autre. Sur le voyage, enivre, avec ses faciles fictions, sa nouveauté factice, il s'agit de rentrer dans l'autre vie, de trouver l'ailleurs ici même, où le familier redevient exotique. Et le simple, original. Campagne profonde, la porte de l'épicerie est restée grande ouverte. La route paraît plus longue, surtout vers la fin. Déjà le jour tombe. Le village perdu apparaît et disparaît dans la pinède. Le bruissement du vent réveille la résine des pins, juste une bouffée. Voilà. Alors il y a dans le récit, donc, des intercalages, je dirais, de trois vers, idiot perdu, dans les nuages, village lointain. Voilà, c'est trois vers. Ceux qui ne pèsent pas continuent à le porter, trois vers. Sur le fond de vase, pourtant, ta barque n'échoue pas. Trois vers, voilà. Et puis le dernier, le bruissement du vent réveille la résine des pins, juste une bouffée. Voilà. Donc, il y a... Alors, ces trois vers, ils sont importants aussi parce que c'est un condensé un peu. Il y a évidemment l'apologie de la marche. L'apologie... La marche, donc, était chère à Rimbaud, hein. Beaucoup de poètes sont des marcheurs. Je pense à Jambes Sacrées. Je pense à Joël Vernet, où je trouve qu'il y a, et je dis à la rentrée vraiment, je ferai cette émission, j'espère avec Joël Vernet, sur ce journal du contemplateur où je retrouve vraiment la même démarche. Que la démarche d'Yves Leclerc, c'est-à-dire pouvoir un peu fuir, lui parle de fuir le tourisme de masse, pouvoir aller vers des lieux comme ça, qui sont peut-être des lieux anonymes, mais faussement inintéressants. Souvent, les lieux anonymes recèlent de richesses pour celui qui sait dessiller ses yeux, essayer de voir. Il y a toujours à voir. Voilà, je vais lire un autre extrait. Avec Monnaie de singe. On est déjà dans le chapitre 19. Hein. Écrire un poème, au dire de Po Shui, est son dernier travers. Écrire, au bout du compte, serait un défaut d'être. Être devrait suffire. Comme tu envies ceux qui se passent de cette béquille et qui vivent pleinement l'existence sans procuration. Pour t'en passer, il te faut un cœur d'enfant, une générosité, une humilité, une sérénité très au-delà de la vanité d'écrire. Les plus grands sages de l'humanité n'ont rien écrit. Les gens ordinaires ne laissent aucune trace, comme le Tao, sinon anonymes, désintéressés et invisibles dans le cœur de ceux qu'ils ont éclairés. Lumière du cœur, obscurantisme des vanités, mélancolie, assédie du narcissisme. Écrire peut-être, au contraire, au même titre qu'un véritable échange, un moyen de partager et de s'ouvrir à l'autre. Vanité suspendue, encore, quand l'écriture est un moyen provisoire de rejoindre le mystère de cette vie. Ensuite, on abandonne la barque, vaine, plus besoin d'elle. On la laisse à d'autres qui en feraient éventuellement usage pour la traversée de cette vie, pour qui demeure dans l'entre-deux intranquille. Après ce défaut d'écriture, comme on cale une chaise bancale, il n'y aurait donc plus rien que le vide diaphane, non pas bien évidemment le néant occidental, envers, enfer de la ferrée, mais le vide plein de ce qui n'est pas le fantoche, celui de l'être accompli. Chaque fois que je croise un beau paysage, notre Po Shui, ou que je suis en présence d'un vieil ami, à haute voix je fredonne un poème. Mais d'où vient cette obsession dont Po Shui a presque honte? Les singes et les oiseaux me regardent à la dérobée, craignant de devenir la risée du monde. J'ai choisi un endroit où personne ne vient. Fraternité franciscaine du poète chant, en communion avec le singe. Sens de l'humour, conscience du pantin en tout être humain, agitation de la marionnette. Singe oiseau, comme un envoi aux gargouilles des cathédrales. Oiseau pour la légèreté et la verticalité, croisé de l'horizontal et du vertical. Monnaie de singe, disais-tu? non pas des leçons de la théorie. Sur ton singe de service, Po Shuyi, ce serait un contre-témoignage, en l'occurrence, d'incarnation en guise d'explication de texte ou de glose. Perdre tes catégories, tes habitudes de pensée, ou de tourner en rond dans ta tête, façon de t'en défaire, d'expérimenter les mots, de confronter les poèmes sur le terrain, pour voir ce qui tient la route, sinon, à quoi bon aligner des tas de mots sur la page. Voilà. Alors, pour finir, il me reste 2 minutes. Je crois que là, ben, on retrouve quand même tout à fait la pensée aussi de Pessoa. Mais Dieu merci, hein, il faut aller au sommet, il dit Pessoa. Mais je crois qu'il ne faut pas ne rien faire. Imaginez que Pessoa n'ait rien fait. De quoi il nous aurait privés. Et puis même tous ces poètes dont il parle là, tous ces poètes chants, s'ils n'avaient pas écrit, comment aurait-il pu s'en inspirer? Comment aurait-il pu avoir cette influence? Donc moi je crois quand même au bénéfice irremplaçable de l'écriture. Exercice spirituel de cet après-midi. Poursuit notre ami Yves Leclerc. T'asseoir sur le vieux billot de bois fendu en deux devant le cabanon. Rester assis sans rien faire d'autre que regarder le vert clair du petit étang. Butiner, vibrer comme l'abeille jaune d'or sur le grain de raisin fendu dans la grande treille de Chasselas. Il a un petit poème. L'abeille qui zigzague cherche sa route dans l'air bleu. On retrouve les trois vers. Avec son ami Liu Yuxi, qui lui sut se passer d'écriture, Po Shuyi se proclame heureux d'être considéré dans le village de Luoyang comme un vieux fou. Tu rejoins bien volontiers cette confrérie des idiots du village mondial. Bienheureux taoïste. Voilà. Alors, il explique là le rouge, hein, le village de l'idiot. Voilà, il explique le titre. Hein. Tu rejoins bien volontiers cette confrérie des idiots du village mondial. Le village de l'idiot, d'Yves Leclerc, donc, des déambulations, non seulement dans la contemplation du monde, mais au-delà de ça, des tribulations dans l'essence même de l'être. Voilà. Et ce sont les grands auteurs qui arrivent à ce résultat, de pouvoir allier les deux dans cette marche qui est la sienne, marche au sens double du terme, marche physique, mais marche spirituelle. Le village de l'idiot. D'Yves Leclerc, aux éditions Pierre Ménard, un livre qui ne vous coûtera que la somme de 14 euros à lire sans attendre cet été. Ainsi s'achèvent les poètes. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie et également à la lecture. Je vous invite à vous rendre sur lespoètes.site pour voir les actualités, puis réécouter les émissions et avoir les actualités de la poésie qui est vivace en France. À la semaine prochaine, à 17h.